Eh bien, bienvenue à tous et bienvenue sur le cours de F6KGL. Et on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre 4 ce soir, et on va parler du décibel ou des décibels et des circuits RC. Donc on va commencer un peu à rentrer dans ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire la partie haute fréquence. Quoique les circuits RC, ce n'est pas spécialement des circuits haute fréquence. Mais on va commencer à aborder ce sujet. Alors déjà, le décibel, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le décibel, c'est en hommage à Monsieur Bell. Donc là, je vous ai mis sa tronche. Donc Monsieur Bell, c'est quand même l'inventeur du téléphone, puisque c'est lui qui a déposé le premier brevet pour un téléphone en 1876. Hein, donc c'est téléphone, sachant qu'avant on avait le télégraphe. Voilà, donc 1876, le téléphone, et Monsieur Bell avait bien l'intention de réutiliser les câbles du télégraphe pour faire passer la voix. Problème, c'est que ces câbles, au bout d'une certaine distance, le son qui était émis au départ par le correspondant, à l'arrivée, on n'entendait plus rien parce que la perte en ligne de toute la ligne, justement, faisait que il n'y avait plus rien et plus suffisamment de puissance pour restituer ce que disait le correspondant. Et donc, Monsieur Bell s'en aperçoit, et Monsieur Bell, il était quand même ingénieur, donc il s'est dit, on va faire en sorte de trouver une méthode qui permette de pallier le problème. Et donc, il a défini un niveau de puissance qui nécessite de réamplifier le message pour que le correspondant continue d'entendre ce que dit la personne qui se trouve du coup à l'autre bout du fil. Et donc, on en est arrivé à définir non pas des belles, mais des décibels qui sont en fait des dixièmes de belles. Monsieur Bell avait dit: lorsque la puissance de la puissance d'origine du signal est divisée par 1000, il faut passer par un amplificateur. Voilà. Alors après, le tout c'est de savoir comment on fait l'amplificateur. Mais voilà, son souci c'était ce point. Donc il avait défini quelque part que lorsque la puissance était divisée par 1000, on était obligé de passer par un amplificateur. Donc après, le tout c'est de savoir quand est-ce que précisément c'est divisé par 1000. Et donc il faut mettre en place tout un système qui permet de mesurer, et donc pour mesurer, plutôt que de donner une valeur comme ça en watts, on préfère utiliser des décibels. Puisque, encore une fois, Monsieur Bell étant un ingénieur, il avait trouvé que les rapports logarithmiques étaient plus intéressants à utiliser que des rapports décimaux, quoi. Et donc, c'est pour ça que le décibel a été créé au départ. Et comme on a trouvé que c'était un truc très intelligent, on l'a appliqué non seulement à toute l'électronique et pas qu'à la téléphonie. Et donc le décibel, c'est maintenant, donc ça s'appelle dB, donc D c'est le dixième de Bell, donc un décibel c'est un dixième de Bell, et donc tout est calculé en décibels. Et quand vous êtes dans le milieu technique professionnel, la plupart du temps tout est défini en décibels, et notamment les puissances. Une puissance, on ne va pas vous donner dis n'importe quoi, 15 watts. Ces 15 watts, on va les transformer en décibels watts. Voilà, donc on va tout transformer en décibels watts et on va voir comment ça fonctionne. Donc le décibel, c'est une unité qui permet d'exprimer un rapport entre deux unités de même nature. En l'occurrence, là, je vous ai parlé de puissance, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres choses, typiquement les décibels acoustiques. Puissance de quoi ? C'est un peu difficile à expliquer. Et donc, en l'occurrence, les décibels acoustiques, c'est des différences de pression de l'air. Et donc, ce décibel, il se mesure à une fréquence acoustique et à une certaine, pression atmosphérique. Et donc, c'est différentes pressions atmosphériques qui vont créer les décibels acoustiques. Le 0 dB acoustique étant le son le plus petit que peut entendre l'oreille humaine. C'est-à-dire pas grand-chose. Et en tout cas, pas la mienne, encore une fois, puisque la mienne à 60 ans, elle est un peu dégradée. Donc on va plutôt s'intéresser à des jeunes qui n'ont pas trop écouté de la musique au casque pour définir ce que c'est que le 0 décibel. Donc pour revenir à nos moutons, c'est-à-dire le décibel en termes de rapport de puissance, ici, là, je vous ai mis un amplificateur. Donc ce petit triangle, là, c'est pour dire, ça, c'est un amplificateur. L'entrée est toujours côté ici de la base et la sortie est toujours côté pointe. Voilà. Et donc ça, c'est un amplificateur. Voilà, après, on va définir ce que l'on amplifie. Hein. On va dire la manière dont ça amplifie en décibels, tant qu'à faire. Et donc, on va... c'est avec de cette manière-là qu'on va quantifier le rapport de puissance entre l'entrée et la sortie. Donc on va voir ce que c'est que ces décibels. Je vous ai mis ici la table de conversion simplifiée qui devrait normalement largement vous suffire pour l'examen. En réglementation, il n'y a que quelques rapports à connaître, mais on va les retrouver ici. Voilà, hein, c'est le 0, 3, 6, 10 et 20. Mais on va pouvoir aussi les retrouver à partir de cette table de conversion simplifiée. Voilà. Comment fonctionne cette table de conversion simplifiée, eh bien ici j'ai les unités de décibels et ici le rapport arithmétique auquel ça correspond. Exemple 0 décibels, ça correspond à un rapport arithmétique de 1 parce que 0 décibels, ça ne m'apporte pas de puissance complémentaire et ça ne m'apporte pas de perte. Donc j'ai un rapport arithmétique de 1, c'est-à-dire que j'ai la même puissance en entrée qu'en sortie. Alors on me dirait à quoi ça sert ? Ça peut servir par exemple à faire des filtres. Parce qu'il n'empêche que vous avez peut-être le même niveau de puissance, mais vous allez avoir un filtre. C'est-à-dire qu'ici vous allez avoir l'intégralité de la bande possible, et en sortie, vous aurez qu'une seule fréquence. Voilà. Mais ça, c'est pas indiqué. Hein. C'est pas indiqué. Et donc, ça, c'est pour donner les unités de décibels. Mais dans un décibel, vous avez donc la dizaine et les unités. La dizaine de décibels va donner le nombre de zéros que l'on rajoute derrière le rapport arithmétique. On va faire des exemples, ne vous inquiétez pas. Mais gardez bien ça dans la tête. Et donc les unités de décibels, ça, ici c'est une suite que l'on appelle une suite arithmétique, puisque à chaque fois je rajoute 3, hein, 0, 3, 6, 9. Et ici c'est une suite qui est dite géométrique, parce que à chaque fois c'est multiplié par 2. 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. D'accord ? Donc, gardez bien ça en tête, c'est très important, et le nombre de décibels, donc, c'est ce qui va vous donner le nombre de zéros du rapport. Donc, ça va fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que, par exemple, ici, 6 dB, vous vous souvenez, quand on avait fait la partie réglementation, 6 dB, ça correspondait à un rapport de 4. Et donc, si je dis, après 16 dB, eh bien, c'est donc le 1, c'est le nombre de zéros que je vais mettre derrière, et donc 16 dB, ça correspond à un rapport de 40. On va voir concrètement les exemples, et évidemment, cette table de conversion permet de transformer un rapport mathématique en décibels, ou inversement, des décibels en rapport arithmétique. Voilà. Donc ça, c'est la base du décibel. Donc là, je vous ai mis des exemples. On va les faire sur le tableau blanc avec ma belle caméra. Donc, le premier rapport, c'est... Alors, je vous rappelle. 0, 3, 6, 9. Donc ça, ce sont les décibels. Et ça, c'est le rapport. Et donc, ça me fait 1, 2, 4 et 8. Alors, c'est un peu en biais. Voilà, c'est un peu moins en biais. Ça va être mieux comme ça. Donc, mon premier... Donc, ce que je vais faire, c'est transformer des rapports en dB. Des rapports en dB. Premier rapport, un rapport de 8, c'est-à-dire que j'ai 8 de rapport entre ma sortie et mon entrée. Hein, j'ai mon amplificateur comme cela. Ici, j'ai 1 watt. Ici, j'ai 8 watts. Donc, j'ai un rapport de 8. Et ce rapport de 8, je regarde ici, 8 correspond à 9. Donc, ici, mon rapport de fois 8 correspond à plus 9 dB. Pourquoi je mets un plus ? C'est que lorsque c'est positif, c'est un gain. Et lorsque c'est négatif, c'est une perte. On va voir tout à l'heure les pertes. Donc ça, c'est un truc simple. Un truc un peu plus compliqué. Ici, je n'ai pas 8 watts, mais j'ai 400 watts. Donc inutile de dire que c'est... Alors il y a peut-être à l'intérieur plusieurs amplificateurs l'un derrière l'autre. Je vais couper peut-être cette lumière. Non, c'est pas cette lumière-là qui me pose problème. C'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, j'ai plusieurs lumières à la maison. Voilà, impeccable. Je la remettrai tout à l'heure, peut-être quand je ferai ma manip pour qu'on y voit plus clair. Donc là, mes 400 watts, donc je multiplie par 400. Et c'est là que ça se complique. Parce que mes 400 watts, donc j'ai le rapport de 4 qui est ici, qui correspond donc à 6, et ça va me donner mon unité de décibels. Et là, maintenant, ici, j'ai ici 2 zéros. Ce qui veut dire que ma dizaine de décibels, ça sera 26, puisque j'ai 2 zéros. Donc ça me fait plus 26 dB. D'accord ? Ce qui est intéressant avec les décibels, c'est que je vais transformer mes multiplications en additions. Ça, c'est parce que j'utilise les logarithmes. Et donc, mes logarithmes me permettent ça. Alors, je vais vous le faire un peu... Alors, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'ici, j'ai pas l'intégralité de la table de logarithmes. Donc, si je vais 26 plus 9... Ici, ça me fait donc 35 dB. Et ici, évidemment, si je fais 8 fois 400, ça me fait ici 3200, pardon. 5 dB, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, il va être là, ici, 35 dB et 8 x 4. Ah oui, 32, bon. Alors, où est-ce que ça merde ? Le 5 décibels, il est dans ce coin-là. Hein, il est là. Donc, il va être entre 2 et 4. Donc, on va dire à peu près à 3, hein, puisqu'il est à peu près à mi-chemin. Donc, ici, mes 35 décibels. Ici, mon 5 devient ici un 3. Mon 5 décibels correspond à un rapport de 3. Et ici, j'ai bien 3 zéros. 1, 2, 3. Donc, moralité, ici, avec mon addition, évidemment, il faudrait que je fasse, que j'aie quelque chose de plus précis avec ma table de conversion. Là. Mais avec une simple table, quelques chiffres comme ça, je vois ici que mon addition, donc mes 35 dB, ça me donne aux alentours de 3000. J'ai bien dit aux alentours parce que je ne suis pas certain que mon 5 ici donne du 3 ici. Hein, ça va faire quelque chose d'approximatif. Et on voit bien qu'avec ma simple opération, eh ben ça match. Parce que de mes 3000 en décibels, enfin, par le calcul d'addition de décibels, j'arrive aux 3200 de mon rapport. Parce que je n'ai pas suffisamment de précision ici sur ma petite table de conversion qui est super super simple. Alors pour, avant de passer à la calculette, donc je vous efface ça, donc vous avez compris ce système-là, avant de passer à la calculette et d'abord les transformations de décibels en rapport de puissance, je vais vous montrer ce qu'étaient des tables logarithmiques. Voici des tables logarithmiques, alors ça date de... C'est les années 60, ça. Il n'y a pas la date. Voilà, c'était Christian quand il était en deuxième. En lycée technique, en CET, en seconde technique. Et donc, voilà une table de logarithmes. C'est comme ça qu'on utilisait. Évidemment, maintenant, on a des calculettes qui font ça très bien. Alors, j'espère qu'elle n'est pas trop... On la voit bien. Ouais, c'est pas trop flou. Voilà, donc on voit, il a essayé de faire des trucs pour se rappeler. Donc ça, c'est la table des logs de 1 à 100, mais derrière, vous avez tous les logarithmes de 1 à 10 000. Donc là, ça tient sur, sur une vingtaine de pages, à peu près. Voilà, sur 20 pages. Donc là, vous avez tous les logarithmes de 1 à 10 000. Et donc, le logarithme, à chaque fois, il est bien indiqué ici. Donc, dans ce superbe bouquin, là, il n'y a pas que les logarithmes, il y a aussi les grades. Qu'est-ce qu'on a encore après ? Il y a les grades. J'en ai vu aussi d'autres. Ah non, c'est que des grades, là. Bon. Donc, c'est la table des grades. Donc, les grades, c'était... c'est à peu près comme les degrés, sauf que c'est en unité, en décimale. Et ça, c'est une table, alors qui ne sont pas des logarithmes, qui sont les tables de sinus, cosinus, tangente, etc. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait avant quand il n'y avait pas les calculettes. Donc heureusement qu'on a les calculettes maintenant. Et effectivement, ça ressemble un peu aux tables financières. Voilà. Et ouais, effectivement, 1970. Hein. Et donc, avant l'apparition des calculettes, on a été obligé de passer avec des systèmes comme cela. Je reviens donc à mes calculs. puisque c'est pour ça qu'on est là. Je vais maintenant passer des décibels au rapport. D'accord ? Et là, je vais, par exemple, 16 décibels, à quoi correspondent 16 décibels ? 16 décibels, alors, ce que je vais utiliser, moi, c'est ce système-là qui me plaît bien pour montrer comment ça fonctionne. Le 6 correspond à 4. OK ? Et le 1 correspond, donc la dizaine correspond au nombre de 0. Et donc là, je mets 1, 0, puisque je n'ai qu'un seul 0. C'est marqué 1, donc c'est 1, 0. Et donc ça, c'est donc 16 dB correspond à un rapport de 40. Et d'ailleurs, on pourrait l'utiliser aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire que si j'ai un rapport de 40, je regarde le chiffre de rapport qui va me donner donc l'unité, et ici je n'ai qu'un seul 0, donc qui va me donner ici la dizaine. Autre exemple, 20 dB que vous connaissez puisque vous l'avez déjà vu quand on a fait la partie réglementation. 0 ici, 0 décibels correspond à 1. Et ici 2, ma dizaine correspond à 2 zéros. Donc 100, vous vous souvenez, 20 décibels correspond à 100. Donc voilà, simplement, évidemment, après on peut en multiplier, autant qu'on veut. Et puis enfin, j'ai 33 décibels, 33, dit 33 docteurs. Le 3 de l'unité ici, 3 correspond à 2, donc je mets mon 2. Et mon 3 ici de la dizaine correspond au nombre de 0, donc 2000. Donc là, j'ai bien transformé mes 33 décibels en un rapport de 2000. Et ici, mes 20 décibels en rapport de 100 et mes 16 décibels en rapport de 40. Voilà comment fonctionne ma table de conversion simplifiée. Maintenant, on va voir comment ça marche à la calculette. Je reviens sur mon PDF. Alors, à la calculette, c'est un peu plus compliqué, non. En fait, tout va dépendre de la calculette que vous avez. Là, j'ai une FX92, mais vous allez avoir, je le sens, des tas d'autres modèles. Et donc, il va falloir que vous cherchiez les différentes fonctions. Alors, je vous rappelle, on avait fait un cours complet sur les calculettes et la manière de les faire fonctionner. Donc, il va falloir maintenant entrer dans le vif du sujet. Jusqu'à présent, on avait fait des calculs simples, c'est-à-dire addition, multiplication, soustraction, des trucs relativement simples. Alors, ça marche aussi avec des décibels à un chiffre. Oui. En fait, ça marche aussi hein, quand on parle de 3 dB. 3 dB, j'ai pas de dizaine, donc ça me fait multiplier par 2 point barre, hein, puisque j'ai 0, 0. Donc voilà. Et donc ça marche aussi effectivement avec des chiffres sans des décibels sans dizaine. Donc voilà. Et si vous voulez plus précisément, j'ai dans le cours, je vous ai mis une table un peu plus complète, une table de conversion un peu plus complète des décibels, mais qui va pas vous servir non plus à grand chose, parce que quand on commence à être un peu plus précis comme ça, en fait on va pas trouver ce qu'on veut, et donc on va se retourner plutôt du côté d'une calculette qui va vous donner un chiffre très précis. Alors normalement pour l'examen, il n'y a pas de questions vraiment sur des calculs de décibels à la calculette. En revanche, c'est peut-être des fois plus simple et plus confortable d'utiliser la calculette parce que c'est plus facile. Maintenant, voilà. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise avec une calculette ou pas. Si vous êtes à l'aise avec une calculette, je vous conseille d'utiliser la calculette. Sinon, bah, table de conversion. Là, c'est à vous de voir quelle est la meilleure méthode. La calculette a quand même le désavantage, entre guillemets, d'être un peu plus long, parce que faut saisir la formule, alors que si vous avez sous les yeux votre table de conversion simplifiée, bah, ça va quand même nettement plus vite. Et puis, le problème de la calculette, c'est que ça va vous donner un chiffre très précis. Et c'est pas ça qu'on vous demande à l'examen. C'est pas un chiffre très précis. Parce que quand on dit un rapport de 2, ça fait 3 dB, pas exactement, ça fait pas loin, je suis d'accord, ça fait 3,01, mais c'est pas ça. Voilà. Et inversement, 3 décibels, ça donne pas un rapport de 2, ça fait 1,995. Donc voilà, si on veut vraiment chercher le QIM, eh ben, ça sera pas bon. Alors sur la calculette, là oui, parce qu'il y a ici le 10 puissance 1 qui doit être. Alors pourquoi? Oui, parce que là j'ai multiplié par 10. J'ai fait 10 log de 2000. Ça me fait bien 33. Oui, c'est bizarre. Je suis d'accord. C'est bizarre pourquoi il m'a écrit ça. Non, rapport de 2000, c'est bien 33. 2000 correspond bien à 33. Et 330, là, il n'y a pas 330, là. C'est 3,3 10 puissance 1. Donc, on va voir la calculette maintenant, et on va vous faire alors le calcul, comme ce sont des décibels. Ici, en fait, le bel, c'est le rapport, le logarithme du rapport de puissance. C'est ça qui détermine le décibel. Le bel, pardon. L'unité de départ, le bel. Et donc, cette unité de départ, ici, eh bien, comme on utilise le décibel, bah, faut multiplier par 10. C'est bête. Et donc, on va utiliser cette fonction. Donc, on va faire 10 fois log du rapport, donc éventuellement du rapport donc de la fraction. Et donc, ça va me donner ici un rapport. Un rapport, c'est un nombre de décibels. Et ici, pour passer des décibels au rapport, eh bien, on va faire 10 puissance le nombre de décibels divisé par 10, puisque là, il faut bien que je revienne au bel. Donc, de décibels, il faut bien que je divise par 10 pour obtenir des bels, et dans ce cas-là, j'ai bien 10 puissance, un nombre exprimé en bels. Et donc, ma puissance de sortie, c'est ce rapport ici, enfin, ce rapport, calculé ici à partir de décibels, multiplié par la puissance d'entrée. On va passer à la calculette. Alors, le 10 est avant le log, c'est parce qu'on est en décibels exactement. Puisqu'on est en décibels, donc il faut multiplier par 10 pour avoir des décibels. Si vous êtes Alors, le décimètre par rapport au mètre. Donc, si vous êtes en décimètre, il faut que vous multipliez par 10, divisé par 10 pour avoir des mètres. On va y arriver. Hein, faut réfléchir un petit peu, mais ça marche bien. Donc, je reviens sur ma webcam et on va faire des petits calculs. Donc, on va vous faire les calculs de 2000. Donc, par exemple, donc je reviens avec mon ampli. Alors, toc, je vais déplacer ça un peu. J'ai un ampli ici, j'ai 4 watts en entrée, 8000 watts en sortie. C'est absolument interdit, mais c'est pas grave. et donc, ce que je vais faire pour calculer le gain de mon amplificateur, je vais faire 10 multiplié par log. Alors, c'est ma touche log qui est ici, et pas celle à côté où c'est le logarithme népérien, c'est bien le logarithme log, donc logarithme décibal. Ça ouvre automatiquement ma parenthèse. Donc c'est ma puissance de sortie. Je divise par ma puissance d'entrée. Je ferme ma parenthèse. Et je fais exé. Et là, donc, je tombe sur 3,301 10 puissance 1. C'est-à-dire 33,01 décibels. Donc c'est pas exactement 33, comme dans ma table, je l'appelle table simplifiée, parce qu'elle est simplifiée. Hein. Mais si on veut regarder ça de manière plus précise, c'est 33,01 décibels. Donc ça, c'est pour calculer donc un rapport de puissance, transformer un rapport de puissance en décibels. Inversement, pour passer de mes 33 dB, on va faire simple, on va partir de 33 dB, alors assez, et donc là je veux connaître le rapport d'amplification, et donc ce que je fais 10 puissance, donc mon 10 puissance il est au-dessus du log, donc je fais fonction seconde 10 puissance, donc ça m'ouvre ici ma parenthèse, donc ça fait 10, le petit chapeau chinois, et ça m'ouvre ma parenthèse, et là je fais donc 33, le nombre de décibels que je divise par 10, pour obtenir des belles, je ferme ma parenthèse, et ça me donne 1,995 10 puissance 3, donc 1995 en rapport, qui correspond grosso modo à mes 2000 que j'avais calculé ici, hein, 8 divisé par 4, ça me fait 2, donc ça me fait 2000. Donc on n'est pas trop loin, c'est encore une fois, c'est une table de conversion qui est simplifiée, et donc simplifiée, ça veut dire qu'elle est, elle a un petit peu quelques biais, mais voilà, on est quand même pas vraiment très loin du calcul définitif, et c'est peut-être ça qui va vous perturber si vous utilisez une calculette, c'est que vous allez chercher le 1995 alors que la bonne réponse pour l'examen c'est 2000. Donc voilà, c'est un petit peu le problème d'utiliser une calculette dans ce cas de figure là. Alors au cas où vous n'ayez pas la fonction 10 puissance sur votre calculette, généralement, tout le monde l'a. Mais il y a une alternative qui consiste, je fais suppress, et là, je vais faire 10. Alors, le chapeau chinois, il est où? Je cherche mon chapeau chinois, il est là. Voilà, donc ça va faire exactement la même chose, hein, sauf que j'ai tapé 10 et j'ai utilisé le signe puissance, qui est donc ici, c'est X avec l'espèce de carré au-dessus, hein, qui me donne ça, je fais exé, et au miracle, ça me donne bien le même résultat. Voilà, ça c'est si vous avez du mal à trouver ou la fonction puissance, enfin 10 puissance x, ou qu'elle n'existe pas sur votre calculette, ce qui est quand même assez, j'y crois pas trop, mais au cas où, voilà, vous avez cette solution de contournement. Je reviens sur mon PDF. Et oui, ne surtout pas, oui, j'ai oublié de le préciser, je reviens sur la calculette, n'utilisez surtout pas la fonction ici 10 puissance x qui vous permet de rentrer le multiple ou sous-multiple. Cette fonction-là ne fonctionnera pas. Voilà, je préfère vous le dire parce qu'il y en a certains qui bidouillent avec ça et ça marche pas. Tout au moins sur ma calculateur. Peut-être sur certaines autres ça va fonctionner, mais sur la mienne ça marche pas. Voilà. Et donc le puissance, là, c'est l'espèce de chapeau chinois là qui est, bon, j'appelle ça le chapeau chinois, après chacun l'appelle comme il veut, l'accent circonflexe si on veut, mais en tout cas c'est le signe mathématique qui permet de déterminer la fonction puissance. Je reviens sur le PDF. Hop. Alors, on a jusqu'à présent vu les nombres de décibels positifs, donc dans le cas d'une amplification, mais lorsque le nombre décibels est négatif, dans ce cas-là, c'est une atténuation ou une perte, comme vous voulez. Et donc, si c'est une atténuation, il faut donc faire l'inverse, c'est-à-dire que 3 décibels, ça donne multiplié par 2, et donc moins 3 décibels, c'est divisé par 2, ou égal à 1,5, mais bon, voilà, si on dit divisé par 2, c'est multiplié par 1,5. Et si je dis moins 16 décibels, eh bien c'est divisé par 40, ou, autre manière de voir, multiplié par 0,025. Hein, selon dans quel sens vous voulez prendre le truc. Mais encore une fois, si vous mettez un chiffre négatif sur dans votre calcul, eh bien, ça va donner un rapport inverse. Exemple, je prends ma calculette, je reviens à ma calculette, mes 33 décibels, je mets ici un moins devant. Donc ça me donne donc moins 33 décibels, et bien du coup ça va me donner 1 divisé par 2000, exé, et donc ça me donne 5 10 puissance moins 4, donc ça me fait 0,0005. Hein, donc ma virgule, je vais le faire. Donc 10 puissance 4, c'est 0,1, 2, 3, 4. Ma virgule, elle est, en position, elle est ici, puisque j'ai 10 puissance moins 4. Voilà. Et donc derrière, bah, c'est exactement, et 0,12, si on veut aller jusqu'au bout de de ce qui est affiché sur ma calculette, hein, évidemment. Mais voilà où se positionne ici ma virgule, en quatrième position, puisque ici je suis à 10 puissance moins 4. Et donc ma calculette, elle sait faire aussi des opérations sur des décibels, du coup négatifs, donc sur des pertes. Donc on a vu... un peu avant, que les décibels, comme ils se calculent avec des logarithmes, ils vont utiliser les mêmes caractéristiques des logarithmes, c'est-à-dire que c'est très intéressant pour tous les techniciens, c'est-à-dire que tous les gains successifs des amplificateurs ne vont pas donner lieu à des multiplications, mais à des additions, et les pertes, quand elles sont à la suite, eh bien, qui normalement donnent des divisions, elles vont être transformées simplement en soustraction. Alors, autant multiplications successives, on arrive à peu près, en calcul mental, on arrive à s'y retrouver. Quand on commence à mélanger des multiplications et des divisions, ça commence à se compliquer. Et quand on rajoute derrière ce qu'on appelle les affaiblissements linéiques, c'est-à-dire que dans un câble, vous avez, et ça c'était le problème de M. Bell, au bout d'une certaine distance, vous avez la puissance qui est divisée par 10, par exemple, eh bien, au bout de la même distance, la puissance sera divisée par 100. Et encore une fois, au bout de la même distance, la puissance sera, sera divisée par 1000. Donc vous avez comme ça une perte qui est de plus en plus importante selon la distance que vous avez, selon la longueur de votre câble. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement linéique, et on le verra ça quand on va revenir bien après sur les câbles coaxiaux, les lignes d'alimentation des antennes. Et donc là, dans les câbles coaxiaux, on en a déjà parlé un petit peu dans la partie réglementation. Donc cet affaiblissement linéique s'exprime en décibels par mètre, où la plupart du temps, les fabricants donnent une perte en décibels pour 100 mètres, parce que la plupart du temps, les couronnes de câbles, hein, ce que vous achetez, la couronne de câble, eh bien, elle fait 100 mètres, et donc le fabricant, il vous dit la perte pour 100 mètres, donc pour sa couronne complète, et pour une fréquence. Parce qu'on verra que cette perte, elle n'est pas la même selon la fréquence que l'on fait passer dans le câble. Voilà. C'est tout ce que l'on... Ouais, c'est tout là-dessus. Maintenant, j'ai un... Alors ça, on va pas faire les calculs, là, c'est plus pour vous montrer la difficulté que l'on a si on ne passe pas par des logarithmes. Typiquement, là, on a un système avec une antenne dont le gain fait 19 décibels, un préampli, donc ça c'est en fait une station de réception, un préampli, donc en tête de mât, on a un préampli qui a un gain de 20 décibels, puis après un câble coaxial dont la perte est de 3 décibels pour 100 mètres, donc ça c'est du bon câble quand même, ou alors c'est qu'on est très bas en fréquence, et à ce moment-là l'antenne là elle n'est pas trop représentative de la fréquence utilisée. Ici, on a un connecteur, un connecteur super pourri, parce qu'il amène quand même une perte d'insertion de 2 décibels. Il faut voir que chaque connecteur, plus vous mettez de connecteurs, plus vous avez de pertes. Ça, c'est certain. Donc là, vous avez un connecteur qui est très pourri, qui doit être bien rouillé ou je sais pas quoi, enfin en tout cas il amène une perte d'insertion de 2 décibels. Et là on demande donc le gain de l'ensemble. Donc, vous avez une partie gain, une deuxième partie gain, ici une partie perte et une deuxième partie perte. D'accord ? Quand on prend le gain ici 19 dB, le 1 correspond à 0, ok, oui, le 1 correspond à 0, donc 0, ma dizaine correspond au nombre de 0 là, et le 9 en décibels correspond à un rapport de 8. Hein, vous reprenez ici, là je vous ai mis la table complète, hein. La table complète que j'ai mis dans le cours, et ce qui est ici en bleu gras, là, c'est ma table de conversion simplifiée. Mais voilà, une fois que vous avez ça sous les yeux, vous devez pouvoir vous en sortir. Donc ça, 19 dB, donc le... 19, donc 10, il est là. Et 9, il est là. Voilà. Donc si je fais 10, 9, ça me donne 10 fois 8, c'est-à-dire 80. Donc c'est une autre manière de présenter les choses, mais voilà, c'est un peu... On tourne toujours autour du même raisonnement. ici mes 20 dB, donc 2 c'est 10 puissance 2, donc 100, et 0 ça me donne 1, donc 20 fois 100, ça me donne, 2 ça me donne 100, et 0 en unité ici, mon 0 me donne 1, donc ça me fait 200 fois 1, c'est-à-dire 100 fois 1, je vais y arriver, 2 correspond à 100 et 0 correspond à 1, donc 100 fois 1 égale 100. Compliqué, mais on y arrive. Et donc, voilà, le 100 sont là. Ici, là, j'ai mon câble coaxial. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu si je n'utilise pas les rapports, enfin, si j'utilise pas les décibels. Là, c'est relativement simple. Si j'utilise des décibels, j'ai 3 dB pour 100 mètres, donc pour 33 mètres, j'ai 33 fois moins. J'ai un tiers de... Enfin, c'est divisé par 3, puisque 33 mètres, c'est un tiers de 100 mètres. Donc en fait, ici, j'ai 1 décibel de perte. Alors, pas exactement, parce que si je prends... que je divise par 100 et multiplie par 33. Donc ça nous fait un tout petit peu moins, parce qu'il faudrait avoir 3,33 mètres pour que ce soit pile poil, ici, 1 décibel. On va faire simple, on va dire, ça fait ici 1 décibel. Si je n'utilise pas les décibels, là je suis bien embêté. Parce que mes 33 mètres, je sais que c'est 3 dB, donc j'aurais perdu la moitié de la puissance au bout de 100 mètres. Mais combien j'aurais perdu au bout de 33 mètres ? Là, ça commence à se compliquer. Et donc, 33 mètres, ça va encore parce que c'est un nombre assez facile par rapport à la longueur de 100 mètres. Mais si c'est quelque chose de plus aléatoire, je dis n'importe quoi, 18 mètres, là, c'est tout simplement impossible à faire ce soir. Voilà. La solution, entre guillemets, un peu tordue pour arriver à la bonne réponse, c'est de dire quelle est la... Enfin, du coup, je vais utiliser non pas la racine carrée, puisque la racine carrée, si c'est j'utilisais 50 mètres. Au bout de 50 mètres, je suis à la racine carrée de la valeur de la perte. Si je suis à un tiers, c'est donc la racine cubique. C'est-à-dire que si au bout de 33 mètres, j'ai 0,8 de perte, au bout de 66 mètres, donc je fais plus, alors 0,8 multiplié par 0,8, ce qui me fait 0,64, et si je remultiplie encore par 0,8, ça me donne 0,512. Donc c'est grosso modo à peu près j'arriverai à ma perte. Donc si j'utilise la racine cubique de 0,5, ça me donne 0,8. Et donc ça, c'est pas facile comme ça à trouver. Alors Fabien qui dit avec le stress, est-ce pas mieux la calculette? Moi, vous faites comme vous voulez, les gars. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer dans un premier temps d'utiliser la table simplifiée et de faire vos séries d'exercices sur examen avec la table simplifiée. Si vous n'y arrivez pas, ou tout au moins si vous mettez trop de temps, à ce moment-là, utilisez la calculette. Mais commencez pas tout de suite par la calculette, vous risquez de vous y perdre. Voilà, tout ce que je peux vous dire. D'autant plus que vous allez voir à l'examen, il n'y a pas tant de questions de ça sur le décibel. Mais il faut que vous ayez bien ça en tête, parce que vous allez en avoir, enfin, si vous êtes amené à bricoler, vous allez en avoir besoin tout le temps. Pour ici ma perte d'insertion, mes 2 décibels, je les ai ici, puisque 2 ça me fait 1,58. Donc là c'est une perte, donc je divise par 1,58. Ou je multiplie par 0,63 comme je veux. C'est l'un ou l'autre. Donc voilà. Et donc si j'utilise mes rapports, donc il faut que je fasse 80 multiplié par 100, divisé par 1,25, divisé par 1,58, et ça me donne 4050. D'accord ? Quand j'utilise mes décibels, voilà, ça se fait deux têtes, 19 plus 20, 39, moins 1, 38, moins 2, 36. 36 décibels, j'ai pas eu besoin de sortir ma calculette. Et quand on regarde 36 décibels, à quoi ça correspond ? Le 6 correspond au 4. Hein ? Le 6 correspond, pardon, ici, le 6 correspond au 4. Et le 3 de ma dizaine, ici, correspond au 10 puissance 3. Donc ça me fait 4000. D'un côté, je trouve 4000 avec mon calcul avec des décibels. Et de l'autre côté, j'ai multiplié par 4050, mais je me suis bien emmerdé. Et la calculette, Dimitri a raison, ça oblige à retenir les formules, sachant que j'ai vu une fois, une question sur la formule du décibel. Donc voilà. Maintenant, vous faites... moi, j'ai pas de conseils à vous donner. Je ne sais pas quel est votre niveau et votre appétence avec la calculette. Parce qu'il y en a certains, quand ils voient une calculette, ils fuient. Hein. Donc, je veux pas que tout le monde se parte. Et donc, ceux qui fuient la calculette, eh bien, ils vont utiliser la table de conversion simplifiée. Et ceux qui sont à l'aise avec la calculette, eh bien, ils vont... oublier la table de conversion simplifiée. Mais c'est un peu dommage parce que quelque part, pour des chiffres relativement simples, ça permet de dégrossir les idées sans être obligé de sortir sa calculette systématiquement. Voilà. La calculette, c'est pas spécialement la meilleure solution. Mais bon, après, encore une fois, c'est chacun qui connaît ses... C'est lacune, et donc, en fonction de ça, bah, on fait avec. Jusqu'à présent, on n'a parlé que des rapports de puissance. Mais on peut très bien aussi utiliser des rapports exprimés en tension. Et dans ce cas-là, la formule n'est plus du tout la même. Alors, plus exactement, elle n'est plus du tout la même, il n'y a pas grand-chose de différence. C'est-à-dire qu'à la place de 10, on va utiliser 20. Donc, dans la formule ici de transformation du rapport de puissance en décibels, on va utiliser 20 log. Et comme on a utilisé 20 log ici pour transformer donc le rapport en gain, on va utiliser divisé par 20 pour... définir le rapport finalement qui correspond aux tensions. Voilà. Mais ça, c'est... et malheureusement, il y a quelques questions là-dessus. Alors, pourquoi on double le gain là ? Bah, c'est encore une fois à cause de ces décibels. C'est qu'en fait, on a la puissance... On se souvient que c'est P égale U2 sur R. Et dans le cadre des décibels, des logarithmes, pardon, quand on a un carré comme ça, un carré, ça devient une simple multiplication. Donc le carré ici revient à multiplier ici par 2. Et donc le gain en décibels, vous remarquez qu'il est le double de celui calculé avec des watts. C'est-à-dire que si j'ai un rapport de tension ici de 2, eh bien ma puissance, elle sera multipliée par 4. Et donc, comme c'est multiplié par 4, bah ça correspondra à 6 dB. Donc en fait, ce rapport ici, si on utilise ici la tension, et si on utilise la même formule que pour les, que pour la puissance, on a ici un rapport de 3 dB, sauf qu'il faut le multiplier par 2. Et donc, ça fait 6 dB. Inversement, à partir de 6 dB, et qu'on est en tension, il faut diviser par 2 pour obtenir le même rapport. Hein, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est ça la différence. Alors évidemment, ce qui marche pour la tension, ça marche aussi pour l'intensité. Hein. Mais généralement, quand on a des mesures à faire, c'est plus en tension qu'en intensité. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, mon amplificateur, là, eh bien, ici, il a. Donc on multiplie par 2 la tension, donc par 4 la puissance, et donc ça fait 6 dB. Mais attention, attention, c'est très important. C'est pas parce que vous avez multiplié par 2 la tension que vous allez systématiquement avoir un gain de 6 dB. Pourquoi ? À cause de cette formule à la noix là. Vous voyez que la puissance, c'est la tension au carré divisée par R. Donc si vous n'avez pas ici les mêmes impédances, en entrée et en sortie, eh bien, cette jolie formule, elle ne marche pas. Puisque, de ce fait, si vous n'avez pas les mêmes impédances, eh bien, vous n'aurez pas le même rapport de puissance. C'est-à-dire que ces 4 volts-là vont donner une puissance. Ces 8 volts-là vont donner une autre puissance en fonction de P égale U2 sur R. Et donc, c'est ce rapport-là qu'il faudra calculer. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Et utiliser ici ces tensions, ça veut dire, ça induit que les impédances sont identiques à l'entrée et à la sortie. Et c'est pas gagné d'avance avec un amplificateur. Donc voilà, juste un bémol. Voilà. Alors, une question qu'on va voir aussi tout à l'heure dans les questions d'examen. 10 microvolts sur une antenne de 12 dB. Tension aux bornes de l'antenne, donc ça c'est quelque chose qu'on va voir par la suite, mais qui s'applique dès maintenant. Donc 12 dB correspond à un rapport de 4 quand on est en tension, puisque je rappelle, il faut d'abord diviser mes 12 dB par 2, qui va donc me donner 6 dB, et donc ça va me donner un rapport de 4. En termes de tension, et donc 4 fois 10 microvolts, finalement je vais avoir non pas 10 microvolts sur une antenne, enfin ce qui arrive sur l'antenne, mais à la sortie de mon antenne, je vais avoir 40 microvolts. Donc mon antenne va avoir un impact sur le gain. Et c'est pas encore tout à fait ça, puisque vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les impédances ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que ce qui arrive sur l'antenne, c'est avec l'impédance du vide, c'est-à-dire 377 ohms, alors que ce qui sort de l'antenne, c'est sous l'impédance de l'antenne, donc généralement c'est plutôt 50 ohms. Et effectivement, alors c'est pas 30 microvolts, hein, c'est 40 microvolts. Alors après, avec les histoires de changement d'impédance, je sais pas, hein. On pourrait faire des calculs précisément, mais en tout cas, ce 40 microvolts là qui est très théorique, c'est pas sûr que ça marche. C'est-à-dire que si on mesure, je suis pas sûr qu'on obtienne les 40 microvolts. Voilà, donc, mais ça c'est dû, j'ai mis tout ça en italique, à mon sens c'est largement au-delà du programme de l'examen, mais c'est pour vous faire toucher que les décibels c'est pas aussi simple que ça. Quand on est en puissance, il n'y a pas de problème, ça marche tout seul. Dès qu'on n'est plus en puissance, attention. On en arrive à la deuxième partie de cette soirée où on va parler des circuits RC. Alors on en avait un peu parlé des circuits RC dans le cadre de la charge et décharge du condensateur, vous vous souvenez, dans la résistance. Là, ça va être un peu... c'est une autre manière d'aborder le sujet, mais qui ressemble étrangement quand même. D'abord, en préambule, on va parler un petit peu, on va revenir sur les différents, sur différents termes qu'on va utiliser dans le monde des fréquences. Premièrement, un harmonique est un multiple entier d'une fréquence. Alors déjà, ce n'est pas une harmonique. Quand on parle d'une harmonique, on est en musique. Quand on parle d'un harmonique, on est plutôt dans la physique, et notamment dans les ondes. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des harmoniques au masculin. Donc, un harmonique est un multiple entier d'une fréquence. Par exemple, j'ai une fréquence de 100 kHz, et l'harmonique 2, donc la deuxième harmonique, c'est la fréquence de 100 kHz multipliée par 2. L'harmonique 3, ça sera la fréquence fondamentale, donc mes 100 kHz multipliés par 3, etc., etc., etc. Donc, et un harmonique ne peut être qu'une fréquence qui soit supérieure à ma fréquence fondamentale, puisque c'est un multiple entier. On ne peut pas dire un harmonique à 3,5. C'est impossible. C'est harmonique... harmonique, c'est donc c'est un nombre entier. Donc, typiquement, l'harmonique 3 est la fréquence de référence multipliée par 3. Autre terme qu'on va utiliser aussi, ce sont les octaves. Et ça, c'est par référence finalement à la musique. Une octave, c'est une fréquence qui est multipliée ou divisée par 2. C'est-à-dire que vous avez des octaves supérieures, ou dans ce cas-là, c'est la fréquence de référence qui est multipliée par 2, et vous avez l'octave inférieure, où la fréquence, elle, est divisée par 2. C'est exactement comme en musique. Hein, le Do sur votre clavier, le Do majeur et le Do mineur, hein, les deux Do là, eh bien, ils ont, il y en a un dont la fréquence est double de l'autre. Donc ici, mon Do mineur, eh bien, il va avoir une fréquence deux fois inférieure à mon Do ici majeur. Et donc, voilà les deux. Mes deux Do. Et donc, entre les deux, j'ai une octave de différence. D'accord ? Donc ça, c'est l'octave supérieure, l'octave inférieure. Et après, on a la deuxième octave supérieure. Et donc, deuxième octave supérieure, je remultiplie par deux. Donc la deuxième octave supérieure, c'est donc finalement l'harmonique 4. Et la troisième octave, ça va être l'harmonique 8. Et donc, l'harmonique 3 n'est pas une octave. On ne peut pas dire c'est l'octave 2,5. Ou tout au moins 1,5. Ça, c'est pas possible. C'est encore une fois un nombre entier. Même chose pour les octaves inférieures. Les octaves inférieures ne sont jamais des harmoniques. Jamais, 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 puisque les octaves inférieures sont par nature inférieures à la fréquence de référence, et quand on parle d'un harmonique, c'est un multiple entier de la fréquence de référence, donc elle ne peut être qu'au-dessus. Voilà, donc octave, supérieur, inférieur, et à chaque fois on double la fréquence. Décade, c'est la même chose que des octaves, sauf que la fréquence, elle est multipliée, non pas par 2, mais par 10. Et donc, la décade supérieure, c'est l'harmonique 10, et la deuxième décade, c'est l'harmonique 100. Et les décades inférieures, qui ne sont pas, encore une fois, des harmoniques, bah, la décade inférieure est la fréquence divisée par 10, et si c'est la deuxième décade inférieure, c'est la fréquence de référence divisée par 100. Voilà. Donc il y a quelques questions sur les octaves et les décades. Voilà, donc typiquement, là, une fréquence, évidemment, à l'examen, encore une fois, on aura l'une ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc, fréquent, donc soit 150 kHz. Quelle est la cinquième octave supérieure? Eh bien, cinquième octave, on compte sur les doigts. Hein. 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16, et fois 2, 32. Donc, j'ai bien multiplié 2, 5 fois 8. Ça me fait 32 fois 150, ça me fait donc 4800 kHz ou 4 mégahits. Je ne sais pas ce que va proposer la NFR, peu importe. Et donc, même question, enfin, avec la fréquence de 150 Hz, quelle est la décade, la troisième décade inférieure? Et bien là, je vais diviser par 10 trois fois, donc ça me fait diviser par 1000. Et donc 150 kHz divisé par 1000, ben, ça me fait 150 Hz. Voilà, ça c'est pour déjà rentrer en matière, parce qu'on va parler dans les filtres, on va faire des références aux octaves et aux décades. Alors, un filtre RC, on retrouve un petit peu la même idée avec ma charge et ma décharge du condensateur. Mais ce n'est pas exactement fait de la même manière. Donc un circuit RC, c'est un filtre déjà, qui est composé d'une résistance et d'un condensateur. Et selon la place du condensateur, c'est-à-dire soit il va être monté ici avec la résistance ici à la masse, donc il va être en haut, ou au contraire on va avoir la résistance en série dans le circuit, et le condensateur ici à la masse, donc il va être plutôt en bas, et donc on va obtenir des résultats différents selon qu'on va avoir cette forme là. Donc ça c'est un passe haut. Pourquoi passe haut? C'est que les fréquences supérieures à la fréquence de coupure qu'on va voir, on va voir après ce que c'est, vont passer. Donc les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. C'est pour ça qu'on appelle ça un passe haut. Il laisse passer toutes les fréquences hautes. Inversement, ce filtre-là, c'est un passe bas, et il va, au contraire, laisser passer que les fréquences basses. Et bloquer toutes les fréquences supérieures à la fréquence de coupure. Donc, en mnémotechnique, vous vous souvenez, la place du condensateur, ça va déterminer la fonction du condensateur. Donc, si le condensateur est en haut, alors évidemment, il faut ici que la masse, ici, elle soit bien en bas. Si vous mettez le schéma avec la résistance et la masse en haut, évidemment, vous allez réfléchir et vous remettre en position normale. Voilà, un petit peu de jugeote, mais voilà, si la masse est en bas, et comme généralement la plupart du temps elle est en bas, eh bien ici on a affaire à un filtre passe haut et ici un filtre passe bas, sachant qu'ici on a l'entrée et la sortie, donc c'est là où on met le signal d'entrée et on récupère ici le signal de sortie. Comment ça fonctionne? Donc là, j'ai pris un filtre ici, un passe haut. Donc la tension d'entrée, elle est toujours la même. Hein. Elle est constante, celle-là. Et ce que l'on va faire varier, c'est uniquement la fréquence. Lorsque ma fréquence augmente, eh bien la valeur de l'impédance de mon condensateur diminue. En revanche, la résistance, là, elle ne bouge pas, puisque elle se fout de la fréquence. Ce qui va bouger, ce qu'on avait vu quand on avait fait le condensateur, c'est que plus la fréquence augmente, plus mon condensateur va avoir une résistance faible. Enfin, c'est C'est le principe du condensateur. Et donc, si j'ai ici une résistance faible, eh bien, en fait, j'ai l'intégralité de mon entrée, là, enfin, l'intégralité, plus je monte en fréquence, plus ici, je vais être ici en court-circuit, et donc, je vais envoyer le tout en sortie sans qu'il soit atténué. Hein? Et donc, plus j'augmente ma fréquence, plus j'augmente ce phénomène, et moins j'aurai de pertes. C'est pour ça qu'on appelle ça un filtre passe-haut. Inversement, si j'avais mis mon condensateur ici en bas, eh bien plus j'augmente de fréquence, plus j'augmente ma fréquence, plus ici mon circuit va envoyer enfin, mon signal d'entrée finalement à la masse. Et ma résistance ici, de plus en plus, elle va avoir une place prépondérante et donc elle va réduire le signal en sortie, puisque ma sortie elle est toujours entre les deux. Donc voilà comment fonctionne un passe haut ou un passe bas. Et on a défini une fréquence de coupure, c'est-à-dire une fréquence à partir de laquelle on considère que le circuit bloque une fréquence. Et cette fréquence de coupure, c'est quoi la définition? C'est dire l'impédance de mon condensateur est égale à la résistance ici en série. Et donc, la résistance est égale à l'impédance, donc je l'écris, j'ai mis ma belle formule, et lorsque je transforme ça, parce que ce qui va m'intéresser, c'est de calculer la fréquence de coupure en fonction de la valeur du condensateur et de la valeur de la résistance. Donc je transforme cette formule. Ici, le F, je le fais passer de l'autre côté du signe égal, et donc il revient au-dessus de mon trait de fraction. Et ici, ma résistance, je la fais passer de l'autre côté de mon signe égal. En fait, j'intervertis la fréquence avec la résistance. J'intervertis les deux. Et donc, la fréquence est égale à 1 sur 2π multiplié par R multiplié par C. Ça, c'est la fréquence, qu'on appelle la fréquence de coupure, et c'est la formule de base. Donc, c'est celle que vous allez utiliser sur une calculette. On va voir un peu après une formule simplifiée. Encore une fois, c'est à vous de savoir si vous voulez... Si vous préférez utiliser soit la formule de base ou la formule simplifiée. Si vous utilisez la formule de base, vous allez être obligé de rentrer des multiples et sous-multiples, notamment à cause du condensateur, parce que vous n'allez jamais avoir des valeurs en farad. Peut-être des valeurs en kilo-ohm, mais rarement en farad. Et la fréquence, du coup, bah, elle ne va pas être en hertz, elle va être en kilohertz, voire en mégahertz. Donc voilà comment fonctionne un circuit RC. Ce qui est très important, ce qu'il faut se souvenir, c'est 1, cette formule, donc là, celle qui est en rouge là, et d'autre part, la forme du circuit et la place du condensateur qui détermine ce que fait le filtre. Savoir si c'est un passe haut ou un passe bas. Au-delà de cette fréquence de coupure, c'est-à-dire que dans le cas d'un filtre passe haut, qu'est-ce qui se passe quand on est quand il passe haut, il va laisser passer toutes les fréquences au-delà. Mais quand on est, qu'est-ce qui se passe pour les fréquences qui sont inférieures? Elles sont atténuées, mais de combien? Et c'est là que intervient le système. Alors, quand on regarde ici. J'ai oublié de dire, en fait, ici on a deux, à la fréquence de coupure, on a l'impédance, ici, est égale à la résistance. Vous vous souvenez, quand on avait fait les résistances, on avait dit que si on a deux résistances en série, eh bien la puissance dans ces résistances va être répartie proportionnellement. Enfin, elle va être répartie de manière égale. Donc je vais avoir autant de puissance ici aux bornes de mon condensateur, que de ma résistance. Tout ce qui arrive dans la résistance, là, ça passe à la masse. c'est parti. Poubelle. Donc il ne reste plus que la moitié de la puissance. Donc j'ai à la fréquence de coupure, j'ai une atténuation de 3 décibels, puisque j'ai perdu la moitié de la puissance. Alors, c'est pas pile poil 3 décibels, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais pour simplifier, on dit toujours, ça simplifie beaucoup les choses, à la fréquence de coupure, on a perdu la moitié de la puissance, donc on a perdu 3 décibels. Donc la puissance à la sortie du filtre, elle est divisée par 2. Que l'on soit dans un filtre passe haut ou passe bas. Au-delà de la fréquence de coupure, c'est-à-dire que pour un filtre passe bas, qu'est-ce qui se passe au-delà ? Alors, en tout cas, ici c'est un filtre passe haut, donc on va faire l'inverse. Que se passe-t-il dans mon filtre passe haut lorsque je suis avant ma fréquence de coupure ? Ma fréquence de coupure, elle est ici. Alors vous remarquez que là je parle de tension et non plus de puissance. Donc ici je suis à 70% de la tension. Ce qui me fait la moitié de la puissance. Et donc ici j'ai ma fréquence de coupure. Hein, ça, FC égale fréquence de coupure. Au-delà de ma fréquence de coupure, ça augmente. Et puis ça va se rapprocher de plus en plus de la tension ici d'entrée, mais c'est ce qu'on appelle aussi encore une fois une courbe asymptotique, c'est-à-dire que ça s'en rapproche de plus en plus, et ça ne la dépassera jamais. D'accord ? En revanche, que se passe-t-il lorsque la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure ? Ça coupe de plus en plus pour arriver ici à zéro, puisque quand ici je suis en courant continu, mon condensateur, là, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus aucun courant qu'il traverse, et donc plus de tension non plus. Voilà, donc ça, c'est un filtre passe haut. Et le filtre passe bas, c'est juste l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir une courbe comme un petit peu ce qu'on avait vu en termes de fréquence, en termes de fréquence, ça va avoir la forme miroir un petit peu. Donc ça, c'est les courbes d'atténuation d'un filtre passe haut ou passe bas. Ça va marcher de la même manière avec le passe bas. Et là, c'est une représentation avec une échelle ici qui est linéaire. Mais on va voir la semaine prochaine, quand on va faire les filtres LC, qu'on va avoir une autre approche et qu'on va utiliser une représentation des courbes avec des échelles qui sont logarithmiques. Et quand les échelles sont logarithmiques, c'est beaucoup plus visible, cette atténuation que l'on a de 3 décibels à la fréquence de coupure. Et d'autre part, quand on est au-delà de la fréquence de coupure, donc pour un filtre passe-bas, quand la fréquence elle est supérieure, et quand c'est un filtre passe-haut pour les fréquences qui sont inférieures, eh bien l'atténuation elle est de 6 dB par octave à partir de la fréquence de coupure. Ça se calcule, c'est mathématique. Donc c'est 6 dB par octave. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des octaves. Et si on se réfère à la décade, eh bien c'est 20 décibels par décade. Et donc on verra la semaine prochaine ces courbes, mais représentées de manière avec des échelles logarithmiques, qui sont un peu plus parlantes que celles-là, parce qu'on ne voit pas trop ce 6 dB par octave. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est pas aussi flagrant. Je vous ai rajouté ici aussi la formule simplifiée de la fréquence de coupure. Et donc la fréquence de coupure, encore une fois on retrouve le 159, là qu'on l'avait déjà vu quand on avait parlé de l'impédance du condensateur. Donc revoilà le 159. Et donc la formule simplifiée, c'est si on prend la résistance en kilo-ohm et le condensateur en microfarad. Alors, ça correspond à peu près à ce que nous, on utilise en tant que... Enfin, dans les vrais montages. Par contre, pas certain que la NFR utilise ce type d'unité. Donc, encore une fois, si la question n'est pas en kilo-ohm et en microfarad, attention, première chose, première règle, c'est transformer tout en kilo-ohm et en microfarad, et la réponse sera donnée en Hertz. Donc, attention, c'est un petit peu les pièges. Quelques exemples, avec le deuxième exemple qui est très tordu, mais ceux qui aiment bien les questions tordues... Alors, c'est pas une question d'examen. Hein. Autant le premier est une question d'examen, le deuxième, c'est une question que j'ai fait moi-même. Alors, effectivement, Furan, qui est déjà la semaine prochaine, l'échelle logarithmique, ça fait une droite plutôt qu'une courbe. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, les droites, on voit bien que ça fait une courbe de... Enfin, la droite... Elle fait bien 6 dB par une pente de 6 dB par octave. Et même à la limite, quand on détermine la pente, à partir de là, on peut déterminer le nombre d'éléments actifs du circuit. Voilà. Mais ça, on en verra un peu plus la semaine prochaine. Donc, premier exemple. On va le faire aussi à la calculette. Donc, pas le deuxième, mais le premier, parce que le deuxième est très tordu, on le fera rapidement comme ça. Quelle est la fréquence de coupure de ce circuit? Donc, j'ai 200 ohms et 5 microfarads, je vais y arriver. Donc, on va passer à la calculette. Ma fréquence de résonance, donc ON. Alors, ma fréquence de résonance, donc c'est 1 divisé, si je mettais sur on, ça serait bien. 1 divisé par, j'ouvre ma parenthèse, alors là je vais faire les choses propres. 2 fois mon nombre pi qui est là. Fois 200, fois la valeur de mon condensateur, c'est-à-dire 5 multiplié par 10 puissance moins 6, puisque ce sont des microfarads. Je ferme ma parenthèse, je regarde si j'ai bien tout, parce que la mienne, elle est un peu vieille, ma calculette, donc il n'y a pas trop de signes ici qui s'affichent à la fois, donc je regarde bien si j'ai pas fait d'erreur. Je fais exé, et donc ça me donne 1,59 10 puissance 2, donc ça me donne donc 159 Hertz. Si je rapproche trop ma calculette, à la lumière, ça fait des reflets. Vérifier avant. Là, c'est bon. Si j'utilise ma formule simplifiée, pour ceux qui veulent utiliser cette formule simplifiée, donc il faut que je fasse 159, je divise par la résistance en kilo-ohm, donc ça me fait 0,2 kilo-ohm, 200 ohms c'est 0,2 kilo-ohm, et je divise par la valeur du condensateur en microfarad, ça tombe bien, il est aussi en microfarad, 5. Donc voici ce que ça donne, je fais exé, et ça me donne donc 1,59 10 puissance 2, donc 159 Hz, puisque ma réponse est en Hz. Voilà. Et donc là, c'est peut-être mal, ça se voit peut-être mal, mais j'ai bien utilisé diviser et non pas plus, hein, à ma calculette. Parce qu'on voit, on voit pas trop la différence entre le diviser et l'addition. Voilà, je reviens sur mon PDF. Hop. Et je vais vous parler de ma deuxième question, qui est très tordue. Alors, c'est moi qui l'ai posée, hein, donc celle-là, elle est particulièrement coton, mais il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ça. J'ai un circuit, encore une fois, c'est un circuit passe-bas, puisque mon condensateur est en bas, avec ici une valeur, 21,22 ohms, 5 microfarads, une tension ici de 4 volts, et quelle tension je vais avoir ici en sortie lorsque je vais avoir, lorsque mon signal a une fréquence de 6 kHz. Donc on est en basse fréquence là. On a vraiment, c'est un filtre qui permet par exemple d'alimenter un haut-parleur et qui va, comme c'est un filtre passe-bas, on va alimenter une basse par exemple. Et donc, tous les aigus ne vont pas passer, ils vont être utilisés, enfin, ils vont être restitués par une autre enceinte qui sera dédiée donc aux aigus. Hein, c'est typiquement le système qu'on met dans les voitures qui permet de diriger soit vers la basse, soit vers le boomer ou vers l'enceinte. Qui plutôt aigu, voilà. Donc ceux qui ont fait un peu de hi-fi dans les voitures avec un énorme boomer dans le coffre, ils connaissent le truc. Donc première chose, c'est calculer la fréquence de coupure de ce circuit. La fréquence de coupure, donc c'est 1 sur 2 pi multiplié par 21,2 multiplié par 5 du 10 puissance moins 6. Ça fait à peu près 1500 Hz. 1500 Hz, et donc 1500 Hz par rapport à 6 kHz, c'est la deuxième octave supérieure. J'ai un filtre passe-bas, ce qui veut dire que pour les fréquences supérieures, à la deuxième octave, je vais avoir 12 décibels d'atténuation, puisque c'est 6 décibels par octave. À la deuxième octave, j'en aurai donc 12. À quoi correspondent ces 12 décibels? Oui, et encore plus vicieuse avec un passe-haut. Là, avec le passe-haut, je passe, en l'occurrence. Ça correspond, ce rapport, donc ce 12 décibels, ça correspond à 0,25, à un rapport de 0,25. Hein, si je fais 10 puissance moins 12 divisé par 20, puisque si j'ai en tension, ça me donne donc un quart de la puissance, de la tension. Et donc si j'ai 4 volts en entrée, je n'ai plus qu'un volt en sortie. Ça, c'est le calcul bête et con. Si on veut aller peaufiner le truc, et calculer précisément, et ce que l'on pourrait faire d'ailleurs, si on s'amusait à le calculer avec un filtre passe-haut, du coup, il faudrait développer cette formule-là. Donc voilà, on s'amuse à la développer. Donc à cette fréquence donc de 6 kHz, je calcule l'impédance de mon condensateur. L'impédance du condensateur, c'est 5,30 ohms. Donc, l'impédance totale de mon circuit série, là. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est utiliser ma loi d'ohm, ma bonne vieille loi d'ohm. Hein. Et donc, je me dis, la tension ici, elle va être proportionnelle à mes impédances, impédance-résistance. Et donc là, maintenant, il faut que je calcule la résistance totale de mon circuit. Donc là, comme je ne peux pas additionner des choux et des carottes, hein, ici j'ai une résistance, ici j'ai une impédance, je ne peux pas les additionner, il faut que je passe par ici ma loi, mon théorème de Pythagore. Et donc c'est la racine carrée de 21,22, ma résistance, au carré, plus l'impédance de mon condensateur au carré. Je prends la racine carrée de ce truc-là. Ça me fait donc 21,873 ohms. Ces 21,873 ohms, ma tension, elle va être proportionnelle ici à mes impédances-résistances. Et donc, ma tension de sortie, c'est ma tension d'entrée, donc mes 4 volts, multiplié par l'impédance de mon condensateur, divisé par l'impédance totale du circuit. Et ce qui me fait 0,9702 volts, et non pas les 1 volt que j'avais trouvé ici, qui était un truc un petit peu simplifié, parce que, voilà, on dit c'est 6 dB par octave, mais c'est pas aussi mathématique que ça. Alors on verra ça la semaine prochaine, quand on verra ça sous forme de courbe avec mes échelles logarithmiques. Et donc, cette tension-là, ça correspond à une atténuation ici, non pas de 12 dB, mais un tout petit peu plus, 12,3 dB. Et précisément, là, je vous ai donné le calcul, au lieu des 12 dB prévus. Ça, c'est pas au programme de l'examen. Mais j'ai pas vu non plus de questions comme ça là-dessus. Voilà, mais... voilà. Tout peut arriver, et si vous avez une question comme ça, surtout vous passez. Parce que vous allez passer énormément de temps, ou alors vous le faites à la fin, parce que vous allez passer énormément de temps à faire des calculs pour gagner 3 points, et souvent, voilà, il y a sûrement des questions plus simples à répondre. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir au moins la moyenne. C'est pas parce que vous avez 20 sur 20 que vous avez un indicatif spécial. Donc on a fini là pour les circuits RC, mais on a aussi, alors chez nous, radioamateurs, on ne l'utilise pas trop, mais on a aussi le circuit RL. C'est-à-dire qu'à la place du condensateur, on met une bobine. Voilà. Et on va utiliser, enfin ça va, puisqu'on a déjà vu que la bobine fonctionne finalement comme un condensateur, mais à l'envers, quoi. Tout ce que l'on a vu avec les condensateurs, c'est la même chose avec les bobines, sauf que c'est inversé. C'est-à-dire que typiquement, là, ce circuit-là, eh bien, c'est pas un passe haut, mais c'est un passe bas. Pourquoi ? C'est que la bobine, elle est en haut. Voilà. Et la formule de la fréquence de coupure, on part toujours R est égal à Z. Évidemment, Z de la bobine n'est pas égal à Z du condensateur, ça se saurait. Et donc, à partir de cette formule-là, eh bien, on détermine la fréquence, et la fréquence, c'est égal à R divisé par 2πL. Voilà. Mais il suffit de partir ici de cette valeur-là, ça, c'est marche à tous les coups, R est égal à Z, et donc en transformant, alors ça c'est ceux qui sont à l'aise avec l'algèbre, hein, je suis bien d'accord, et puis ceux qui sont pas à l'aise, eh ben, ils apprennent la formule, mais j'ai vu deux fois des questions, alors pas de calcul, mais uniquement sur la formule. Donc voilà. Et encore une fois, ça va marcher de la même manière, c'est-à-dire qu'au-delà de la fréquence de coupure pour un filtre passe-bas, eh bien, il va y avoir 6 dB par octave d'atténuation. Donc au bout de 2 octaves, on aura, et donc la fréquence multipliée par 4, on aura 12 dB d'atténuation, etc., etc. Les questions d'examen vont porter évidemment quelques-unes sur la puissance en sortie, donc ça ressemble beaucoup aux questions qu'on avait déjà vues dans la partie réglementation. Hein, donc si on a 20 watts avec une puissance ici, enfin, un rapport en décibels, enfin un gain de 3 décibels, quelle est la puissance en sortie? 3 dB, c'est donc multiplié par 2, 20 watts multiplié par 2, ça me fait 40 watts. Voilà. Deuxième question, et là, c'est ce que l'on avait vu tout à l'heure dans le cours. Alors, ce qui est quand même, c'est que la question existait dans le cours, et elle a été reprise intégralement par la NFR, comme quoi je pense que la NFR lit mon cours. Ça me fait plaisir à voir de temps en temps. Et en tout cas, la question, elle était présentée comme celle-là, et donc ça ressemble étrangement à la question qui était présentée dans le cours. Donc on l'a déjà vu, ça correspond à 40 microvolts, mais avec les incertitudes, notamment autour de l'impédance. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Voilà. Mais en tout cas, la réponse attendue, là, c'est 40 microvolts. Parce que la NFR, à mon avis, ne cherche pas à se compliquer la vie avec les histoires d'impédance. Alors que malheureusement, dans la vraie vie, il y a une incidence. Quel est le gain total de deux amplificateurs en série, le premier étant de 6 dB et le deuxième de 4 dB? Évidemment, quand ils sont en série, donc on additionne les gains. Et si on additionne les gains, donc ça fait 4 plus 6, ça me fait 10. Et vous remarquez que dans les réponses proposées, évidemment, il y a 6 fois 4, 24. Voilà, histoire de vous perturber. Et puis, et 46 et 64, c'est les mélanges entre les deux, les 6 et les 4. Là. Donc, mais la bonne réponse, évidemment, c'est 6 dB. Alors, au passage, 4 dB, ça correspond à une multiplication par 2,5. Donc 6 dB correspond à 4. 4 dB correspond à x 2,5. Donc, 4 fois 2,5, ça me fait 10. Donc, voilà comme on arrive à récupérer finalement les autres valeurs de décibels. Voilà. Alors, pourquoi c'est pas 160 microvolts? Eh bien, c'est parce que ici, je ne suis pas. Enfin, j'utilise ici des volts et non pas une puissance. Hein, puisque là, encore une fois, les décibels, si j'utilise ma formule décibel, je dois fonctionner en termes de puissance. Là, en l'occurrence, je ne suis pas en puissance, je suis en tension. Donc si j'utilise 12 dB, hein, je vais le faire à la calculette, histoire de vous montrer que ça... Donc si je fais 10 puissance, alors mon 10 puissance il est là. Donc 12 divisé par 20, puisque là je suis en tension, je ferme ma parenthèse, exé, donc ça me fait 3,981, donc 4, fois, qu'est-ce que j'avais dit, 10 microvolts. Et ça me donne donc 39,81 microvolts. Puisque, encore une fois, je suis en volts. Et ben voilà. Et voilà, qui avait Furan qui avait oublié cette histoire de 20 logs. Oui, alors n'oubliez pas volts ou ampères. 20 logs, ou divisé par 20. Watts, puissance, multiplié par 10 ou divisé par 10. Ça doit être un réflexe. Et encore une fois, c'est quand on parle en volts, ça marche pas à tous les coups. Encore une fois, rappelez-vous les histoires autour de l'impédance, enfin des rapports d'impédance. Voilà, rien de spécial. Deux autres questions. Alors celle-là où on a quelque chose de ressemblant. Pardon, c'est pas celle-là, puisque ça c'est la fréquence de coupure, la première. Donc la fréquence de coupure, alors là avec des picofarads et des kilo-ohms, donc c'est voilà. On peut le faire soit avec la formule simplifiée, mais je vous conseille pas parce que là il y a les picofarads alors que moi je demande des microfarades, et la réponse va être en hertz, alors que là, les fréquences sont plutôt des gros nombres, donc vous n'avez pas trop intérêt à utiliser dans ce cas-là la formule simplifiée, parce que ça risque de vous perdre plus qu'autre chose. Donc pour cette formule, webcam, donc 1 divisé par, alors je ne vais pas faire 2π, je vais faire 6,28, ça va me suffire largement, multiplié par la valeur de la résistance, donc 16 multiplié par 10 puissance 3, puisque c'est 16 kilo-ohms, et multiplié par la valeur du condensateur, donc 10, multiplié par 10 puissance moins 12, puisque ce sont des picofarads. Et je ferme la parenthèse, exé, et ça me donne donc 9,95 10 puissance 5, donc 995 kilos, donc 1 méga, pour faire simple. Voilà, pour faire simple, ça va faire 1 méga. Je reviens sur mon PDF, on va noter 1 méga. Et la deuxième question, alors, la tension en sortie, c'est là que ça... En fait, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire calculer la fréquence ici de résonance. On va s'apercevoir qu'ici, on est à la fréquence de résonance. On va le faire tout de suite, d'ailleurs. Raté mon coup. Alors, la fréquence de résonance. Hop. AC. Donc, 1 divisé par 6,28 multiplié par 16 ohms multiplié par 100 picofarads multiplié par 10 puissance moins 12. Je ferme ma parenthèse, exé, et donc ça me donne 9,95 10 puissance 7. Mm-hmm. 10 puissance 7, donc le méga, ça me ferait 99, 10 puissance 6, donc 99 mégas, donc on va dire 100 mégas, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fréquence ici de coupure, et donc si je suis à la fréquence de coupure ici, alors j'ai pas la moitié de la tension, mais j'ai la moitié de la puissance, et si j'ai la moitié de la puissance, eh bien ça me donne donc 4 fois 0,7, et donc ça va me donner, alors 4 fois 0,7, 4 fois 0,707, exé, ça me donne donc 2,28 volts, et enfin, j'ai 2,8 de proposé, donc c'est bon, hein, puisque ma fréquence de résonance, c'est 100 mégas, enfin à quelque chose près, c'est 100 mégas, et donc, à 100 mégas, j'ai 0,707 en termes de tension, sachant que j'ai ma puissance qui est répartie en deux. Hop. Voilà, je vous ai tout mis des tas d'explications sur le PDF. Vous allez, si vous prenez le temps de le lire. Et voilà, je pense qu'on a vu la manière logique d'y arriver. Voilà. Autre question, une fréquence ici de 200 Hz, quelle est donc fréquence de 2000 Hz, et donc quelle est la fréquence qui a une octave supérieure, puisqu'il y a marqué plus, donc on va dire que c'est une octave supérieure, c'est pas très bien exprimé, mais bon, voilà. Donc une octave c'est multiplié par 2, et donc c'est 4000 Hz. Fréquence de 3000 Hz, fréquence de première décade supérieure, donc là c'est bien exprimé, et donc 3000 multiplié par 10, bah, ça fait 30 kHz. Et enfin, autre type, alors un peu tordu cette question, parce que quand on regarde comme ça rapidement, on voit pas tout de suite ici que c'est un L, et L donc c'est une bobine, donc ça c'est un filtre RL, et donc comme la bobine est ici en bas, c'est un filtre passe haut, et un filtre passe haut à 6 dB par octave, mais ça de toute façon c'est un filtre à un seul élément, donc il a automatiquement 6 dB par octave, et c'est ni un bouchon, ni un coupe-bande, ni un filtre ampli. Voilà, donc et donc ce schéma-là, c'est plutôt un schéma qu'on voyait alors il y a très longtemps maintenant, hein, puisque je rappelle le Minitel a été arrêté en 2008, donc ça fait quand même un certain temps. Et donc ces questions sous cette forme-là, avec des schémas de cette forme-là, c'est typiquement ce que l'on avait sur Minitel, puisque Minitel c'était assez compliqué à alors un condensateur encore ça se faisait, enfin ça se dessinait, une bobine c'était l'enfer à dessiner sur un Minitel. Donc voilà. Tout au moins on reconnaissait rien du tout. Et donc la solution avait été prise de faire des rectangles comme ça et d'indiquer dans le rectangle bah, quel était le composant qu'on mettait dedans. Voici tout, on en arrive à la manip de la soirée. Alors je vais passer sur sur mon Firefox, le voilà. Et ben il y est déjà, c'est parfait. Alors, je mets ça en bas. Voilà, donc ça, vous avez un peu l'habitude maintenant de ce joli site. Voilà, donc c'est l'étude des filtres. Alors, je rappelle comment, enfin, où trouver ça. Vous tapez sur Internet figure animée pour la physique et vous tombez sur un site qui est géré par l'Académie de Nantes. Et donc vous avez dans le menu général, là, si vous allez dans le menu général, accueil, peut-être, je ne sais pas, voilà, et accueil électricité, vous allez dans filtre, simulation de filtre, et voici, vous arrivez dans cette belle boîte à outils, qui marche très bien, et là, ce que je vais faire, je vais simuler un filtre passe bas et voir comment ça marche. Alors, je vais déjà mettre une petite résistance. Alors, comment ça marche ? Alors, pardon, on va y arriver. Je suis en train de bricoler sur mon autre écran pour que j'ai un retour à peu près correct. Voilà. Et je vais arriver sur le deuxième écran. Voilà, donc, que je vois ce que je fais quand même. Donc ici, je vais mettre une résistance pardon, de valeur 1 kΩ. Donc ici, je peux... Alors, je pense que si c'est 1 kΩ, j'essaye... Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir plus petit, non. 1 kΩ. Ça sera 1,05, désolé. J'ai pas le 1 kΩ tout court. Ici, là, je vais mettre un trait. Donc, je prends mon trait ici, je le mets là. Ici, là, je vais couper. Donc, je fais comme ça. Et ici, je mets un condensateur. Le condensateur, je vais le mettre de 66 microfarads. Pourquoi ? C'est parce que je vais essayer 66 microfarads, voilà. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il se passe à la résonance. Pour que je sois à la résonance, donc je prends ma calculette et alors je vais utiliser la formule simplifiée parce que je suis un grand fainéant. Donc je fais 159 divisé par 1 divisé par 0,66 puisque je suis en microfarad. Donc tout va bien. Exé et ça me donne donc 240 Hz. Donc je vais mettre mon générateur ici sur 240 Hz. Donc ici il est sur 50 kHz. Donc je vais le mettre sur 240 dans l'autre sens. Non. 240 Hz. Et voilà, ici, je suis à la fréquence de coupure. Fréquence de coupure, ça veut dire qu'ici, si j'ai 5 volts, ici, j'ai 5 volts multiplié par 0,707, c'est-à-dire 3,9, 3,8, 3,9 volts. Ah, évidemment, j'ai rien du tout pour mesurer, mais ici, je vois bien qu'ici, je suis entre ici, là, c'est 3. Pop, 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 pop. Alors, ça, c'est 1, 2, 3. Voilà, il y a un tout petit peu au-dessus de 3. Mais voilà, donc, je dois avoir ici 3,85 volts. Et si je fais varier ma fréquence, c'est-à-dire ici j'ai un filtre passe-bas, ça veut dire que plus j'augmente ma fréquence, plus ça va être atténué. J'augmente ma fréquence, et vous voyez que mon signal aux bornes ici, puisque ici je le mesure ici mon signal, hein, aux bornes du condensateur. Donc aux bornes du condensateur, plus j'augmente ma fréquence, plus mon signal ici est faible. Et lorsque je reviens ici, voilà, à zéro, bah évidemment, j'ai la même tension. Enfin, il ne se passe rien, puisque ici, ça recouvre parfaitement. Voilà. Et donc, ici, quand je suis à 240 Hz, c'est assez précis, hein. Faut pas donner de gros coups de souris. Et donc ici, je suis exactement à 3 décibels, finalement, de coupure. Vous remarquez aussi, et ça c'est peut-être moins visible, on va le voir tout à l'heure sur le PDF, qu'ici, entre mes deux courbes, ici, j'ai 45 degrés de différence. Donc j'ai un déphasage de 45 degrés. Lorsque je vais augmenter ma fréquence, donc déjà mon harmonique 2, par exemple, mon harmonique 2 de 240 Hz, donc c'est 480 Hz. 480 Hz. Vous voyez qu'ici, je suis à 2 volts. Voilà, donc je suis en théorie à 6 dB, mais en fait à un peu moins de 6 dB, puisque si j'étais à 6 dB, je devrais être à la moitié de ma tension. Donc à 2,5, mais là je suis un tout petit peu au-dessus de 2, mais je ne suis pas à 2,5. Et si j'augmente encore et que je passe donc ici à 960, 960, donc là à ma deuxième octave supérieure, pas facile à obtenir, j'y arrive pas, mais en tout cas ici vous avez ici ça se rapproche de 1,25. Et 1,25, c'est donc la tension divisée par 4, donc de 12 dB d'atténuation. Voilà. On peut aussi regarder de cette manière-là, en mode, avec cette option-là, qui permet ici de déterminer la tension en fonction de la fréquence. Et je vais vous passer le PDF, parce que c'est plus lisible sur le PDF. Mon PDF, le voilà. Donc ici, je vous ai indiqué ici les différentes tensions. Alors j'aurais dû agrandir ça avant. Voilà. Et donc là, on voit bien, ici, ça c'est ma fréquence ici de résonance. Donc de 1, alors ça, c'est exprimé en pulsation. C'est pas exprimé en fréquence, c'est exprimé en pulsation. Et la pulsation de 240 Hz, c'est égal à 1513 radians par seconde. Donc 1,5, pour faire simple, puisque je suis ici en milliers de radians. Et donc à 1,5, ici je vois bien que je suis à 0,71 de gain. Donc j'ai une perte, en clair, j'ai une perte ici de 3 décibels, puisque ici je suis en tension. Hein, donc... voilà. À la première octave, ici, je suis donc à 6 dB, donc j'ai plus que la moitié de la tension. Et lorsque je suis à la deuxième octave ici, je suis à 0,25, donc ici j'ai 6 dB de perte, ou... Alors 12 dB de perte qui correspondent à une puissance divisée par 4. Voilà, donc vous avez... Alors, encore une fois, c'est une mauvaise représentation parce que c'est une échelle qui est linéaire. Et ce que l'on va voir la semaine prochaine, c'est que si on fait cette même représentation avec des échelles logarithmiques, tant en fréquence que pour l'atténuation, donc en termes de puissance dans ce cas-là, eh bien, on va voir ici que ma courbe là va avoir finalement va être comme deux droites qui sont sécantes. La courbe elle va épouser deux droites qui sont sécantes, c'est-à-dire qui se coupent et qui se coupent à l'endroit où on a la fréquence de coupure. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter le petit logiciel, enfin les fameuses figures animées pour la physique qui marchent toujours très bien. Je vous conseille d'ailleurs d'aller bricoler, d'aller regarder, il y a plein de trucs dessus qui sont passionnants. Et puis d'autre part, je vais rallumer du coup ma lumière et basculer la webcam du côté de la manip du soir. Alors toc, je vais passer sur la webcam. Voilà, donc là je vais vous montrer, donc c'est mon circuit, hein. Le circuit il est là, donc je vous ai mis ici un petit crayon parce qu'avec mes gros doigts. Donc ici, c'est mon condensateur que vous commencez à connaître. Hein. Mon joli condensateur fait avec ma bakélite et mes étiquettes collées dessus. Voilà. Donc ça, c'est mon condensateur. Ici, c'est mon générateur, que vous connaissez aussi maintenant. J'injecte ici la fréquence de mon générateur. Alors l'afficheur, il ne marche plus. Donc... mais c'est pas grave puisque j'ai un rappel de la fréquence générée ici sur mon oscilloscope. Donc tout va bien. Donc finalement, je n'ai pas besoin de la fréquence de mon générateur. Ça arrive ici. Voilà. Donc ici, la sortie de mon générateur, ici la masse. Et donc j'envoie le tout. Ici, une résistance. La résistance, elle fait 1813 ohms précisément. Je l'ai mesuré à l'ohmmètre. Ici, mon condensateur. Et ce que je vais visualiser, c'est finalement voir si ce que me présentait le site de l'Académie de Nantes, c'est cohérent ou pas. Voilà, je fais bouger ma fréquence. Donc, plus j'étale ici la fréquence, plus la tension est importante aux bandes de mon condensateur. Inversement, plus j'augmente ma fréquence, plus la tension aux bandes de mon condensateur diminue. Alors, c'est pas aussi flagrant que tout à l'heure, parce que là, tu mets un peu plus de temps à passer d'un extrême à l'autre. Ici, j'ai mis... Alors, je sais pas. Ah non, j'ai mal visé. Je vais viser un peu mieux l'oscilloscope. Voilà. Ici, donc, la fréquence de mon générateur. La tension ici du signal d'entrée, donc en jaune, et la tension aux bornes du condensateur ici en bleu. Ok ? Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de trouver la fréquence de coupure de ce circuit. Pourquoi ? C'est que ça va me permettre simplement de déterminer la valeur de mon condensateur. Je m'explique. Je vais avoir la fréquence qui va s'afficher là. J'ai la résistance, puisque je l'ai mesurée à l'ohmmètre tout à l'heure. Et donc, je vais chercher la fréquence pour laquelle la tension ici en sortie est égale à la tension d'entrée, donc les 7 volts, multiplié par 0,707. Donc je vais essayer de trouver ici une tension qui fait 5 volts. Donc je fais bouger ma fréquence. Donc voilà, 4,32 volts, 4,40 volts. J'arrive bientôt, je commence à ralentir. La progression. Voilà. Donc là, je suis entre mes deux valeurs, donc, puisque ça clignote entre 4,96 et 5,04. En fait, c'est parce que ma sonde, là, enfin, mon oscilloscope ne sait pas trop où. Donc il est entre les deux, là. Donc il est entre le 4,96 et le 5,04, il ne fait que de bouger. Donc ça, c'est la tolérance, si vous voulez, de mon la précision de mon oscilloscope, qui n'est pas extraordinaire, mais bon, fait avec ce qu'on a. Donc là, j'ai bien noté ma fréquence, qui est de 155 kHz. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai fait mes essais, c'était 164. Donc il y a sûrement quelque chose qui a bougé par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais bon. Si ça se trouve, c'est mes pinces à linge là sur mon condensateur qui ont bougé un petit peu. Ah, bon, peu importe. Voilà, donc 155 kHz. Et donc à partir de là, je reviens sur mon PDF rapidement. Je vous montre la manière dont je vais faire. Que je vais utiliser. Donc j'avais bien ici ma fréquence de coupure, donc c'est ma tension d'entrée, donc mes 7,1 volts que j'ai mis là sur à mon générateur, multiplié par 0,707, ça me fait bien mes 5 volts. Et quand est-ce que j'ai ces 5 volts aux bornes de mon condensateur? À 164 kHz. Donc Ça veut dire que à 164 kHz, j'ai l'impédance du condensateur est égale à la valeur de la résistance, 1813 ohms. Donc, je développe la valeur ici de mon impédance, c'est 1 divisé par 628 multiplié par 164 10 puissance 3 multiplié par C, c'est égal à 1813. C, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, je vais le sortir et le remplacer par 1813. J'inverse finalement les deux valeurs-là. Et donc, la valeur du condensateur, c'est cette formule-là. Et quand je fais ça à la calculette, ça me fait 535 picofarad. Et c'est à peu près ce que j'avais trouvé quand j'avais mesuré avec mon multimètre. Qui n'était pas très précis, mais c'était à peu près cet ordre d'idée. Donc on va faire la même chose, la même manip avec la bobine, et comme ça pour la semaine prochaine, on aura nos valeurs pour calculer la fréquence de résonance de notre circuit. Donc là maintenant, je reviens sur la webcam. Je vais reprendre un peu. Voilà, je démonte mon condensateur. Hop, je mets la bobine à la place. Alors que je rate pas mon coup. Il faut bien que je le mette dans le bon picot, sinon ça va pas aller. Voilà, donc nous voilà donc avec un peu le même système. Alors, c'est pas génial, parce que mon circuit, il se prend, il est pas mal. On voit bien qu'il n'est pas, il n'est pas du tout sinusoïdal, donc il y a quelque chose qu'il n'aime pas. À mon avis, c'est la bobine là, qui est mal. Et que j'ai un support pour la surélever un peu, parce que comme elle est posée ici sur la sonde, ça doit poser problème. Et je vais faire la même manip, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver la fréquence de résonance. Vous voyez bien que là, tout à l'heure, quand je partais en plus loin en fréquence, la tension à l'envers. Quand je suis en fréquence élevée, j'ai de plus en plus de tension sur ma bobine. Et inversement, quand je diminue ma fréquence, la tension diminue aux bandes de ma bobine. C'est normal. Donc là, je vais revenir. Vous remarquez aussi, au passage, que la bobine, elle a une tension qui est en avance par rapport à la valeur ici de ma tension de générateur. C'est mon fameux déphasage. J'en ai pas parlé tout à l'heure avec le condensateur, mais le déphasage était complètement dans l'autre sens. Donc là, je vais chercher mes 5 volts. Voilà, comme tout à l'heure, ça fait que de changer entre le 4,96 et 5,04. Donc ça, c'est le même problème que j'avais tout à l'heure. Et donc là, la fréquence, c'est 260 kHz. Bon, tout à l'heure, dans mes essais, c'était 258. Donc là, pour le coup, on reste dans les purs. On va essayer de le mettre à 258, bah, il est à peu près là. Voilà, 258, et c'est à peu près, donc, tout à l'heure, je sais pas, c'est mon condensateur qui a changé un peu de valeur. Voilà. Donc, donc c'est à 250 kHz, et donc j'ai 4,96 volts. Alors ça, c'est donc un filtre passe haut, puisque c'est une bobine, là, et qui est donc renvoyé à la masse, donc c'est un filtre passe haut. Et si je cherche une valeur donc 257 kHz, et donc les fréquences inférieures, donc je divise par 2, donc ça me fait 125 kHz, et si je vais sur 125 kHz, que se passe-t-il? Voilà, à peu près. Eh bien ici, alors je n'ai pas la moitié de la tension comme je devrais avoir avec mes 6 dB, j'ai un tout petit peu plus. C'était mon calcul que l'on a fait tout à l'heure, où on me disait que c'était... pardon, j'ai un tout petit peu moins, c'est-à-dire que normalement je devrais avoir 3,50 volts là, et là je n'ai que 2,80 volts. C'est parce que mes 6 dB, c'est pas aussi évident que ça, et on verra la semaine prochaine pourquoi, c'est que la courbe, au départ, elle n'est pas très proche de la droite. Elle s'en rapproche de plus en plus, mais au début, elle n'y est pas vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi, au départ, on n'a pas réellement nos 6 dB de perte par octave. Et si on monte encore, enfin si on descend encore plus en fréquence, donc là en l'occurrence ça va faire du 60 Hz, je ne sais même pas si on va pouvoir y aller avec ce truc là, non on peut pas y aller. Le système va pas, enfin mon oscilloscope ne descend pas aussi bas, ou alors faut peut-être que je refasse un reset. Ah si, voilà, donc là, si je me mets à 80, non, c'était 125, ça me donne 66, voilà, donc là, on est 7 par rapport à 1,48, on n'est pas trop loin quand même en termes de tension, 1,48, divisé par 7. Ouais, on est à 2,114, donc voilà, on est à... C'est quoi ce truc-là d'ailleurs? Oh, 20%. Ouais, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. 7 divisé par 1,48. Ouais, ça me fait 4,730 au lieu, normalement, je devrais avoir 4 divisé par 4, et là j'ai divisé un peu plus. Donc pas aussi évident que ça à maîtriser, normalement on devrait avoir divisé par 4, et donc 7 divisé par 4, ça me fait, je devrais avoir 1,75 V. Si j'avais exactement mes 12 dB. Voilà, donc c'est pas aussi évident que ça, on verra la semaine prochaine pourquoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous repasser le PDF pour vous donner le calcul que j'ai fait, et c'est exactement le même calcul que tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de la valeur de la bobine. Donc je reprends ici mon calcul. Et donc l'impédance est égale à la résistance. Donc l'impédance, je développe, 628 multiplié par 258 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par L. Et donc L est égale à 1,813 divisé par 628 multiplié par 258 10 puissance 3. Et ça me fait 1,12 milliHenry. Donc ça, c'est une méthode assez simple pour déterminer la valeur d'une bobine et d'un condensateur. Alors ça dégrossit, hein, c'est peut-être pas super précis, mais ça permet de dégrossir. Enfin, on verra donc la semaine prochaine, avec ces deux composants, comment faire un circuit bouchon et un circuit série, et donc les fréquences de résonance de ces deux circuits, et quelle tête a ce genre de... qu'est-ce que ça fait dans notre circuit de mettre une bobine et un condensateur ensemble. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.